Volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Tap. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence. Mon invité dans ce nouvel épisode, Bertrand Betsch, un artiste rare qui publie régulièrement des albums de chansons à l'univers délicat, un peu mélancolique, plein d'humour. Il n'y a pas d'autotune, pas d'effets superfétatoires, il y a des textes alliant finesse et musicalité. Son nouvel album, Géor de l'amour, sort dans quelques jours. Bonjour Bertrand.
Bonjour Antoine.
Alors dis-moi, le titre du second single de ton album s'appelle Tout doit disparaître. Le titre de l'album, c'est J'ai horreur de l'amour. C'est carrément brutal, c'est ton humeur du moment ?
Ouais, mais je vois ça comme un, je crois que c'est un album un peu punk en fait, assez nihiliste. Par la forme, il y a déjà beaucoup de sons saturés, donc très assez rock, même si c'est pas du rock du tout, mais il y a des emprunts. Et puis après, dans le propos, oui, c'est assez nihiliste. Ça correspondait à l'état dans lequel j'étais quand je l'ai écrit, quoi, il y a 2 ans.
Ah, il y a 2 ans, tu l'as écrit, d'accord. Ouais. Alors, c'était le temps de maturation, on va dire, le temps après d'enregistrement. Tu enregistres ça chez toi, tu passes en studio, comment ça se passe ?
Pour cet album-là, j'ai tout fait chez moi, sauf les violons qui ont été enregistrés par une musicienne, Salomé Perli, au Québec, parce qu'elle vit au Québec maintenant.
D'accord.
Après, je travaille avec elle depuis 2015, donc elle joue tous mes albums, pas tous mais presque. Et voilà, donc il y a eu des échanges à distance, quoi, d'arrangements.
Ouais. Alors la pochette de l'album, elle est super évocatrice. Là, il y a une gélule sur la langue. Il faut le décrire pour ceux qui ne la voient pas. C'est quoi ? C'est pour guérir de l'amour ? C'est pour guérir de tout ?
C'est un album qui parle quand même pas mal de la dépression. Pas tous les morceaux, mais en gros, je pense que ça résonne avec ça.
Ouais. Alors, t'as sorti au total une quinzaine d'albums, c'est ça ?
Celui-là, c'est le 17e, je crois.
17e, ouais. Donc, c'est une approche qui est évidemment complètement aux antipodes en fait, de ce qui se passe actuellement, où les artistes font un album, attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, avant d'en sortir un autre. Je ne vais pas parler de productivité, c'est un peu un gros mot, mais... Pourquoi en fait, qu'est-ce qui motive cette abondance ?
J'ai pas le sentiment d'abondance au sens où, par exemple, en 2021, j'ai pas écrit une seule chanson, une année blanche où j'ai pas touché un seul instrument. Donc moi aussi, je m'accorde des temps de repos. Cela dit, oui, ça m'interroge par rapport aux autres. Moi, je serais extrêmement malheureux et frustré de publier un album par tous les 4 ans, quoi. Donc je sais pas ce qu'ils font entre les albums. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas se mettre sur un nouveau projet tant que le projet sur lequel ils ont travaillé n'est pas publié, ce qui est pas mon cas. Moi, je travaille toujours sur plusieurs albums à la fois, et la plupart des albums, je travaille dessus par intermittence sur plusieurs années, et donc au bout à un certain moment donné, il y a plusieurs disques qui sont prêts presque de manière simultanée, et ce qui fait que voilà, il m'arrive de publier 1, 2, 3 albums par an, quoi.
Ah, ce qui est effectivement totalement.
Cette année, j'en publie 3, mais un seul avec des chansons originales qui est Géor de l'amour. Mais dans le reste de l'année, il y aura un disque qui s'appelle Jukebox Babe Volume 1, qui est un album de reprise, et un album instrumental qui s'appelle Souvenir du Mali.
D'accord.
Mais encore une fois, voilà, l'album de pièces instrumentales, j'ai bossé dessus par intermittence sur une vingtaine d'années. L'album de reprise, j'ai dû commencer à travailler dessus en 2018 et arrêter en 2020. L'album de chansons originales, par contre, il est allé assez vite puisque je l'ai écrit entièrement. Non, pas entièrement. J'ai écrit les 7 premiers titres en 2020 et les deux autres titres, je les ai avaient été écrits auparavant. Et je les ai donc assemblés. Il y avait un 10e titre que j'ai enlevé la veille du mastering parce que c'est un titre de 8 minutes. Il y avait un petit bout qui pour moi ne fonctionnait pas. Donc il n'est pas impossible que je le retravaille et le ressorte peut-être dans une édition de luxe de l'album en numérique.
D'accord. Ah, c'est un vrai travail d'artisanat de luxe, en fait, presque. Travailler, retravailler, revenir sur le, remettre sur le métier les,
voilà. Et les compos. Ce qui me distingue des autres, c'est que effectivement, si je voulais enregistrer des albums classiques, c'est-à-dire avec un vrai budget en studio, je pourrais pas en publier tous les ans. Je serais comme les autres, je pourrais en publier tous les 3-4 ans. Et moi, ça me va pas parce que j'ai besoin de m'exprimer, quoi. Et du coup, comme de toute façon, aujourd'hui, il y a quasiment plus d'aide, hein, à ce sont tarifs, au niveau de, je parle des subventions, que ce soit la DAMI, les CCP, etc. Donc moi je fais des albums quasiment à coût zéro, quoi. Sur cet album-là, genre de l'amour, il y a juste eu les violons qui ont été faites par une violoniste. ça a été la seule dépense du budget, quoi. Sinon tout le reste, enregistrement, arrangement, mixage, je l'ai fait tout seul.
D'accord. Ah oui, tu joues tous les multi-instrumentistes. Ouais.
Moi, je joue pas bien des instruments, mais suffisamment pour pouvoir un peu tout faire. Et du coup, bah, ça donne des albums un peu artisanaux, quoi. Donc, c'est pas aussi ouvragé qu'un album qui serait enregistré en studio avec un vrai producteur, etc. Mais c'est un choix assumé de do it yourself, quoi.
Est-ce que tu fais de la scène, en fait? Est-ce que, justement, est-ce que il y a aussi toujours cette espèce de truc classique des artistes, et ok, on sort l'album et après on va faire une petite tournée, on monte sur scène pour défendre la chose. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait partie de ton scope, ou parce qu'il y a autant d'albums?
Alors ouais. La dernière fois que j'ai tourné, c'était pour l'album La vie apprivoisée. J'ai tourné en 2016-2017. Et depuis, j'ai pas refait de concert. En fait, j'ai trouvé que l'album studio suivant, c'était La Traversée. Alors pour le coup, ça c'est un album qui a coûté de l'argent, qui a été produit. Voilà, où à l'époque, on a pu avoir des subventions. Et en fait, il est sorti en 2020, en pleine pandémie, et la tournée est tombée à l'eau. Après, le nouvel album, c'est pas un album que je souhaite défendre sur scène, parce que c'est pas un album qui s'y prête. Et là, je suis en train d'écrire un nouvel album qui est basé sur des guitares-voix, donc c'est une sorte de, comment dire, c'est...
plus intimiste.
Ouais, c'est un album guitare-voix, et du coup qui sera facile à adapter pour la scène, ce qui n'était pas forcément le cas des albums précédents.
Ouais.
Donc du coup, c'est une façon de m'obliger à faire la scène. Mais après, le souci pour moi, c'est que j'ai pas de tourneur, donc je fais pas beaucoup de dates, et voilà, c'est les gens qui m'aiment bien, qui organisent des concerts, qui m'invitent à faire des concerts, mais du coup je tourne jamais beaucoup, quoi.
Est-ce que tu mentionnais justement l'album qui est sorti, La Traversée, qui est sorti justement au moment de la pandémie, est-ce que cette période de confinement, d'isolement, il n'y a pas eu de spectacle vivant, il n'y a rien eu, est-ce que ça a eu de l'impact sur ton travail, sur ta façon de composer, est-ce que ça t'a inspiré?
Pas du tout, au sens où moi je suis un peu confiné toute l'année. non, j'ai pas eu le poids du confinement, au sens où de toute façon moi et mes amis on respectait pas du tout les couvre-feux et tout ça. Donc il nous arrivait quand même de faire des soirées illégales. et après, moi je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, donc voilà, ça m'a pas impacté particulièrement.
Ouais. Alors, j'aimerais revenir sur ton parcours musical, parce que c'est quand même on a dit 17 albums. Tu as commencé en quelle année? Enfin, l'histoire de Bertrand Betsch, donc auteur-compositeur, elle commence quand? Comment ça t'est venu, en fait, tout ça?
En fait, j'ai commencé la musique assez tard, vers l'âge de 13-14 ans. Dans ma famille, enfin, j'ai deux frères et sœurs. Et dans ma famille, mes frères et sœurs ont eu des leçons de piano Et aucun n'a accroché, donc ça s'est vite arrêté. Et pour moi, ça s'est pas posé. Moi, qui suis le seul à être devenu musicien, ironiquement, parce que j'avais d'énormes problèmes, d'énormes retards scolaires, de gros problèmes d'apprentissage. Donc ça m'aurait fait un surcroît une charge de travail beaucoup trop importante en plus, quoi. Donc je me suis mis vraiment en dilettante, d'abord avec un clavier, puis après. Et après la guitare et des petits, j'ai joué dans des petits groupes adolescents, à l'adolescence, et tout de suite j'ai vite compris que ça me correspondait pas parce que tout prenait énormément de temps du fait que qu'il fallait que tout le monde soit d'accord et puis voilà quand il y a plus il y a de personnes dans un groupe, plus le processus de création est lent. Donc, vers l'âge de 18 ans, je me suis acheté un 4 pistes à cassette. Et là, c'est là où j'ai eu la révélation que tout allait beaucoup plus vite. Et c'est là que j'ai commencé à m'épanouir musicalement. Mmh. Après, j'ai les années, mais c'est vraiment à partir de, je dirais, l'âge de 23 ans que mon travail a vraiment commencé au sens où, depuis cet âge-là, j'ai quasiment gardé tous les morceaux que j'ai composés. Et voilà, certains d'ailleurs figurent sur des albums qui sont parus 20 ans plus tard. C'est pas un problème pour moi.
Ah oui, c'est.
Donc, tout ce que j'ai fait depuis cet âge-là, je l'assume et ça fait partie de mon répertoire. Et il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été publiées et qui le seront plus tard. Après ça, donc, à partir de l'âge de 23 ans, c'est vraiment là où où je me suis mis au songwriting de façon presque quotidienne, comme un apprentissage, un travail. Et cette époque-là, le milieu des années 90, j'ai vraiment beaucoup écrit de chansons.
Ouais.
Et en 95, j'ai envoyé une cassette au label Lithium. Et donc le label sur lequel était Dominica, Diabologum. Mmh. Et j'ai eu une réponse deux jours après. Donc après j'ai rencontré le boss du label, Vincent Chauvier. Je signale d'ailleurs qu'il y a un livre très intéressant qui s'appelle Les années Lithium qui est paru. C'est le label, le fanzine Langue Pendue qui l'a publié. C'est un livre de 210 pages, très très documenté, beaucoup d'interviews, de photos, de documents originaux, qui est vraiment un livre passionnant et qui retrace un peu l'épopée du label Lithium. Et donc, à partir de 95, il y a eu ses premiers contacts. J'ai continué à envoyer des nouvelles chansons à Vincent Chauvier. Et en 96, on a signé le contrat. J'ai enregistré le premier album et il est paru en mai 97.
Quels sont les artistes qui t'ont inspiré? Qu'est-ce que t'écoutais en fait avant de te lancer dans la musique? Est-ce qu'il y a des artistes qui ont été plus ou moins plus marquants en fait ou qui ont eu un impact en fait sur ta façon de travailler, sur ton travail et tes compositions?
En chanson française, l'artiste vraiment le seul artiste important et vraiment qui a déclenché quelque chose, c'est Mansell. Il s'est trouvé que un de mes frères écoutait Mansell quand j'étais gamin et à 12 ans, j'ai découvert l'œuvre de Gérard Mansell et ça a été un déclic. Je me suis dit voilà, il n'y a pas que la variété, il y a aussi possibilité de faire quelque chose de véritablement auteuriste, quoi.
Ouais.
Et après l'adolescence, j'ai écouté essentiellement ce qu'on appelle le post-punk, ce qu'on appelait en France la New Wave et la Cold Wave.
New Wave, ouais.
Donc Cure, Joy Division, New Order, Suxy, Boss, Tux of the Moon, Minimal Compact, Gas Product, tout ça, etc. etc. Ouais.
On a écouté les mêmes choses.
ça a été, j'ai écouté ça énormément, très longtemps.
Ouais.
Mais je me demande, mais il n'en reste rien musicalement sur mes albums. Donc, ce que je pense, c'est que ce que j'ai retenu de ce mouvement, c'est, je pense, la mélancolie, qui est très présente dans tous mes albums. Par contre, formellement, c'est très différent.
Oui, effectivement, il y a pas ces sons un peu, ces mélodies sombres, ces choses, ouais. Mmh. Ouais. D'accord. Et là, aujourd'hui, donc sur tes différents albums, en fait, ton inspiration, tu l'as puise où ? Alors, bon, effectivement, tu m'as dit le dernier. Bon, là, c'est vraiment une expérience. C'est du vécu, mais c'est quoi ? C'est des observations. C'est le monde qui t'entoure. C'est quoi, en fait ?
C'est vraiment. C'est pas du tout réfléchi, en fait. Quand j'écris une chanson, il y a deux phrases qui me trottent dans la tête que je note sur un cahier. Et puis, à un moment donné, il y a un phénomène de cristallisation. Je vais ressortir les deux phrases et je vais écrire un texte de chanson. Et après, le mettre en musique. Donc, le texte prévaut sur le, enfin, est antérieur à la musique, ce qui n'était pas le cas au début. Au début de ma carrière, j'écrivais les textes et les musiques en même temps. Et là, depuis une dizaine d'années, voire plus, il y a d'abord le texte et ensuite la musique. Et c'est seulement bien après que je comprends de quoi je parle dans mes textes, parfois des années après. Et plus ça va, moi je cherche à être maître de ce que je dis. Je laisse les mots arriver, en fait. On comprend uniquement sur les rimes, parce que pour moi les rimes sont importantes, parce que tout ce que j'ai pu écouter en chanson française qui n'est pas rimé, pour moi ça claudique. En revanche, la métrique, je m'en soucie pas trop. Si je pars sur un vers de 8 pieds, il y aura des vers de 7 pieds, de 6, voire moins, ou voire un peu plus, c'est pas très grave, parce qu'après ça donne un rythme à la chanson, quelque chose de moins monotone. Et donc voilà, je me concentre sur la musicalité du texte, quoi, sur est-ce que les mots sonnent bien, enfin non, des mots plutôt. Et voilà, par contre, c'est pas réfléchi, voilà, c'est assez spontané et une grosse part d'inconscient, ouais.
D'accord. Tu disais que tu écris tous les jours. Il y a une méthode de travail ou alors effectivement c'est très
Comme je te disais, en 2021, j'ai absolument rien écrit. Et là, depuis le début de l'année, je recommence à écrire. Mais ma méthode, c'est que j'ai toujours un cahier dans lequel je note énormément de choses. Ça va de mes listes de courses à une liste et puis des phrases comme ça, des vers orphelins ou deux. Et donc, je pêche là-dedans. À un moment donné, il y a un truc qui vient, voilà. Mais c'est pas du tout une pratique quotidienne, hein. Je peux rester un an sans écrire de chansons, hein.
Ah ouais. Et ça, t'as un manque ou alors c'est juste, non, la vie reprend et tu passes à autre chose?
C'est vraiment très dur. L'année 2021, elle a été très dure. Parce que ça m'arrive pas souvent une année blanche. Ça m'est arrivé une fois dans les années 2000. Après, je remplace par d'autres choses, moi j'ai besoin de. Enfin, je me sens bien que quand je crée, en fait. Donc, si je pouvais écrire une chanson par jour, je le ferais, quoi. C'est vraiment. Pour moi, écrire des chansons, ben, j'ai toujours considéré ça comme un mode de vie, quoi. Pas comme une simple activité, mais comme quelque chose de vital, quoi.
Et tu écris exclusivement pour toi ou tu as déjà écrit pour d'autres chanteurs, d'autres artistes ?
Non, j'écris que pour moi, comment dire, je reste ouvert à des collaborations. Pour l'instant, il y a des choses qui ont été amorcées, mais qui ne se sont jamais faites. Mais c'est quelque chose, oui, que j'aimerais bien faire.
Alors, tu avais fait une petite collaboration avec un artiste que j'ai interviewé, qui s'appelle Magnetic Rust, où tu t'aventurais dans des territoires électro. C'est une expérience que tu vas renouveler. C'était quoi l'idée, en fait ?
En fait, parmi tous mes projets, il y a un projet qui court maintenant depuis, je pense, 2 ans, que là j'ai mis entre parenthèses parce que j'écris un album sur lequel je suis un peu concentré. C'est un projet participatif. Donc il y a Kevin avec qui on a fait un titre, mais avec qui on va certainement faire d'autres titres. Il y a Mathieu Malon qui j'ai fait de Laudanum, qui j'ai fait un titre aussi, et puis d'autres. C'est un projet que je porte depuis 2 ans, de faire un album électro participatif avec des gens qui m'apportent des instrus sur lesquels je pose des textes. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, qui est assez chouette à faire. Et je désespère pas d'arriver au bout, mais je prends mon temps.
D'accord. Alors, on va écouter un single, donc extrait de ton album. Tout doit disparaître. Donc, effectivement, c'est un titre hyper nihiliste. T'étais pas de bonne humeur là, le jour où t'as écrit ça.
Non, c'est vraiment l'album que j'ai écrit après une phase vraiment très très down. Et c'est un album qui m'a. Enfin, écrire cet album, ça m'a vraiment presque sauvé la vie, quoi. Et en revanche, je l'aurais jamais publié si je considérais pas que les textes n'étaient pas au cordeau et les compositions optimales. Voilà. Après, c'était pas seulement une boîte de sauvetage. Voilà, ouais. Je considère l'album vraiment pertinent artistiquement, sinon je l'aurais pas publié.
Ouais, voilà. Cathartique, mais abouti. Ok, ben on écoute. Tout doit disparaître.
Vivre. Et oh, ça va bien, 5 minutes. Moi, j'ai pas demandé à naître. Je passerai bien par la fenêtre. Il serait temps que ça s'arrête. Tout doit disparaître. Il serait temps que ça s'arrête. Tout doit disparaître. Tous les baisers volés au bout de à jeter, les cachets avalés, les bébés qu'on fait passer, toutes ces nuits d'alcool, la perte de contrôle, ces discours sans parole, les matins au formol. Il serait temps que ça s'arrête. Tout doit disparaître. Il serait temps que ça s'arrête. Tout doit disparaître. Les dérives au long cours et ce besoin d'amour. On est tous un peu sourds. On est beaucoup trop lourds. J'ai essuyé l'envie, essuyé le mépris, pas toujours tout compris, une vie au ralenti. Il serait temps que ça s'arrête, tout doit disparaître. Il serait temps que ça s'arrête, tout doit disparaître. J'ai en moi cette colère et la soif de déplaire. En rien je n'espère que l'on me jette en terre. J'ai pas beaucoup aimé, j'en suis désolé. J'ai tellement triché, mais je vais rendre les clés. Il est temps que tout s'arrête, tout doit disparaître. Il est temps que tout s'arrête.
Donc c'était Tout doit disparaître, un extrait de l'album J'ai horreur de l'amour. On va passer à l'interview express, un exercice auquel tu t'es déjà livré, un exercice difficile.
Très difficile.
Très difficile, voilà. Première question. Alors, on n'y pensait pas jusque-là, jusqu'à encore quelques mois, mais bon, attaque de zombies, de russes, pandémie galopante. Tu dois prendre qu'un seul album avec toi. Qu'est-ce que t'emportes ?
Ok. Une playlist.
Pourquoi pas ?
Parce qu'en fait, moi, je passe mon temps à faire des playlists. J'adore ça.
Ouais.
Parce que c'est rare que j'aime un album de bout en bout. Plus ça va, plus c'est comme ça. Quand j'étais plus jeune, l'album auquel j'adhérais vraiment entièrement, mais c'est de plus en plus rare.
Ouais.
Ouais.
Alors justement, si on restreint justement l'idée de la playlist, finalement, s'il y a qu'un seul titre à sauver, mais absolu, le titre qui est le joyau absolu, où tu dirais, mais ça, c'est voilà, s'il n'y en a qu'un seul à garder, je garde celui-là. Ce serait lequel ?
Attends, je regarde mes playlists. Ce que j'ai sur Les American Recordings de Johnny Cash.
Ah ouais, ouais.
Enfin, je dis ça comme ça spontanément, mais j'en suis pas sûr. Mais c'est vrai que c'est des disques à lesquels je retourne souvent.
Ouais. Alors, il y en a 4 ou 5, je crois, donc c'est...
Je crois qu'il y en a 6.
C'est riche. 6, ouais. Est-ce qu'il y a des titres, ou des sons, des musiques qui te plongent dans une dépression totale, une tristesse complètement insondable dès que tu entends les premières notes?
Ouais, c'est juste... Parce que moi, je suis monté à l'envers. En fait, les morceaux mélancoliques me donnent du bonheur et les morceaux gays me donnent du malheur. Donc, quand j'entends Happy de Pharrell Williams, ça me plombe. pas seulement parce que c'est gay, mais aussi parce que c'est très pauvre, c'est indigent, c'est médiocre. Et ce qui vraiment, moi, me plombe, c'est pas tant la gaieté que la médiocrité, en fait.
Ouais.
C'est pareil pour tous les arts. Si je vois un mauvais film, je suis pas bien après. Et si j'écoute une chanson vraiment qui me déplaît beaucoup, pareil, ça me plombe, quoi. Et ouais. On parlait tout à l'heure des artistes que j'écoutais adolescent ou plus jeune. Et en fait, moi, j'ai tendance à considérer qu'on se construit contre aussi, que le goût est fait de mille dégoûts, pour reprendre l'expression de Paul Valéry. Et je me souviens très bien que quand j'étais jeune, je regardais beaucoup les chaînes de clips, et je devais être maso parce que je détestais 90% de ce qui passait, mais j'étais vraiment impacté très fort par tout un tas d'artistes qui m'insupportaient. Je sais pas, il y a des trucs qui me reviennent comme ça, je sais pas moi, Level 42, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, François Fellman, etc. Et ce qui m'a construit, c'est aussi le rejet de certaines musiques, en fait. Et pas tant des musiques que j'admirais ou que je voulais copier. Donc je pense voilà, qu'on se construit aussi contre.
Ouais. Alors justement, est-ce qu'il y a des sons aujourd'hui que tu peux vraiment pas écouter, c'est-à-dire sur lequel tu fais un blocage total, des musiques, des styles ou des artistes, où tu dis non, là c'est pas possible, quoi, c'est
J'ai gardé une certaine ouverture d'esprit, au sens où je peux écouter à peu près tous les styles musicaux, à part peut-être la bossa nova. Là j'ai un peu un blocage par rapport à la bossa.
D'accord. Et justement, je rebondis sur l'histoire des clips que tu regardais en boucle. Est-ce que tu as des plaisirs coupables, c'est-à-dire des choses un peu inavouables, en fait, qui sont un peu bien cachées, ou je sais pas, que tu écoutes dans ta voiture tout seul et tu chantes à tue-tête, mais il faut surtout pas que ça se sache.
Ah non, j'ai pas de plaisir coupable, moi j'assume tout ce que j'écoute, hein. Mais c'est vrai que je peux écouter des trucs de variété, comme des trucs obscurs, mais par exemple, je ne me suis jamais fermé à la variété, j'ai jamais eu de prévention par rapport à des artistes comme, Balavoine, Berger, même France Gall, quoi. Et par exemple, il y a une chanson que j'aime beaucoup, de Louane, qui s'appelle Ecchymose, écrite et composée par Benjamin Biolay. Je trouve que c'est ce que Biolay a fait de mieux, à peu près, je dirais, à part l'album Trachéié, qui est un très bon album. Et j'aime beaucoup cette chanson, ouais. Une vraie chanson pop de 2 minutes 30. Voilà. Et pourtant, c'est Louane, mais ça me plaît.
Ouais. Est-ce que tu as un héros absolu, enfin vraiment un artiste, enfin, tu mentionnais Manset, c'est vraiment l'artiste qui t'a le plus, je dirais,
le phare,
marqué, c'est le phare. Ouais.
Et en même temps, c'est quelqu'un que j'aimerais pas rencontrer, quoi, parce que humainement, c'est quelqu'un de très déplaisant. Je connais suffisamment de gens qui l'ont rencontré pour ne pas avoir envie de le rencontrer. Mais effectivement, au niveau de l'œuvre, à part ces deux, trois derniers albums qui sont épouvantables, c'est vraiment quelque chose vers lequel je reviens tout le temps et qui est assez indéboulonnable, quoi.
Ouais. Est-ce que tu as des livres ou des films cultes?
J'ai plein de films cultes, des livres cultes aussi. Le Mal des fantômes de Benjamin Fondane. C'est un recueil de poésie. Il y a des recueils de poésie que je relis souvent, ceux de Reverdy aussi. Il y a aussi un recueil de Lionel Ray dont le titre m'échappe à l'instant. Les livres que je relis, c'est presque toujours des livres de poésie, ouais.
D'accord.
Après, au niveau des films, il y en a énormément. Le film que j'ai vu le plus de fois, je pense, c'est Mauvais sang de Carax.
Ouais.
Sinon, je pourrais citer Paris, Texas de Wenders, In the Mood for Love de Wong Kar Wai, Jane Dillman de Chantal Ackerman, La maman et la putain de Stash, et beaucoup, beaucoup d'autres.
Ouais, des œuvres assez exigeantes, on va dire. On va écouter pour conclure un titre que j'aime beaucoup, qui était extrait de ton précédent album, La Traversée, un titre qui s'appelle Rendez-vous, qui est assez prime-sautier finalement. Qu'est-ce qui t'avait inspiré à cette époque sur ce titre-là?
Je sais pas, je suppose que je voulais faire une pop song. Moi, j'avoue que c'est pas ma préférée de l'album.
Ah ouais?
Je l'avais laissé non, parce qu'elle était légère, quoi. C'est rare que je fasse une chanson légère, donc voilà.
Ouais. Ah, c'est vrai que c'était pendant le confinement, et effectivement, ça avait apporté. Enfin, moi, ça m'avait apporté un peu de légèreté.
Ah, c'est vrai qu'il y a des choses que je préfère, comme l'échapper. Par exemple, je suis beaucoup plus fier.
Ouais.
Comme un album.
D'accord, très bel album. Ok, bah écoute Bertrand, merci en tout cas pour cet échange. Et donc, rendez-vous très bientôt donc pour la sortie de ton nouvel album, J'ai horreur de l'amour. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Au revoir.
Rendez-vous à la rivière, au fil de l'eau claire, dans le bras d'une mère, dans l'onde traversière. Rendez-vous à minuit une, au chevet de la lune, à chacun sa chacune, au sommet de la dune. Rendez-vous, rendez-moi, où êtes-vous, Belladonna? Rendez-vous au firmament, dans le ciel vif argent, dans les cheveux troublants de nos corps transparents. Rendez-vous un jour de pluie, dans l'écorce d'un midi, et éteignons l'incendie de nos tragiques comédies. Rendez-vous, rendez-moi, où êtes-vous, Belladonna? Rendez-vous, rendez-moi, où êtes-vous, Belladonna? Des marais, aux marches des palais, sous le sceau du secret d'un brouhaha muet. Rendez-vous au cinéma, glissons dans l'anonymat, glissons dans le coma du grand diaporama. Rendez-vous, rendez-moi, où êtes-vous, Belladonna? Samedi, tous les jours de la semaine, qu'il vente ou qu'il peine, mon prochain, ma prochaine, on s'aimera quand même. Rendez-vous, rendez-moi, où êtes-vous, Belladonna?
Le volume sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquoi. Musique du générique Nezik. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.